France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Lutter malgré tout ce samedi dans Plan large avec Julia Loctef et Hassan Salab et aussi Entebbe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. C'est aujourd'hui que s'ouvre la 47e édition du cinéma du réel, l'incontournable festival international du film documentaire qui, cette année, pour cause de travaux au Centre Pompidou, se dissémine dans Paris. Il n'en rend pas moins compte, comme chaque année, de l'acuité des cinéastes à nous faire voir et peut-être comprendre un peu le monde dans lequel nous nous débattons. Sa section rétrospective est ainsi l'occasion de poser une question cruciale en ces temps ici comme partout ailleurs, où le sentiment d'impuissance politique peut provoquer quelques paralysies, quel horizon ? En l'absence de perspective, comment rendre compte du présent lorsque ce présent nous absorbe, nous affecte, nous attaque? Eh bien, la réponse tient en quatre documentaires fleuves, celui en trois parties, la trilogie du Tohoku du japonais Ryusuke Hamaguchi qui accompagne les survivantes du tsunami de 2011, une autre trilogie, celle consacrée par le chinois Wang Bing à la jeunesse des campagnes exploitée dans les ateliers textiles de la région de Shanghai, et il y a ceux de nos deux invités qui embrassent le temps long de jeunesse en lutte contre la déréliction politique et morale de leurs pays respectifs, de films tournés à la main sur le temps long avec leur téléphone portable et dans une proximité totale avec leur sujet. L'américaine Julia Loctef, qui fut soviétique dans son enfance, est ainsi retournée à Moscou, filmée d'octobre 2021 au 2 mars 2022, jusqu'au premier jour de l'invasion de l'Ukraine, les derniers médias indépendants de Russie, et constatée en temps réel le basculement d'un pays tout entier dans un régime totalitaire. Son film s'appelle My Undesirable Friends, Mes amis indésirables, et ils deviendront aussi les vôtres quand vous l'aurez vu. Le Libanais Hassan Salab trace lui depuis plus de 25 ans le portrait poétique et hanté d'un pays qu'il a appris à faire sien et livre avec contretemps le carnet de bord de la Taoura, le mouvement qui depuis l'automne 2019 remet en cause avec joie et virulence les pourrissantes fondations politiques et économiques du Liban jusqu'à cet hiver 2023 qu'il a vu une fois de plus replonger dans la guerre. En fin d'émission, Entebbe évoquera dans sa chronique trois films américains d'un Allemand qui lui aussi a vu son pays d'origine basculer, Fritz Lang, mais pour l'heure on entre dans les coulisses d'une télévision au beau nom poétique de Dojd, la pluie en russe.
Мой первый редактор в моей жизни взял меня на первую мою работу. Который поет
русский, говорит без акцента. Лучший друг, не рассказный агент, не служил ЦРУ, не обзавелся легенд. Это труп из Афганистана агент, алиби нет.
Это черный день для российских медиа, сегодня генпрокуратура признала нежелательным.
И протоколы допроса не добавили ясности, как мы стали угрозой госбезопасности.
Bonjour, Julia Loctef. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, merci pour mon métier.
Ben, merci, je ne savais pas que vous parliez un peu français. Nous sommes en octobre 2021 dans la rédaction de Dojd, de Rain TV en anglais, la pluie en français. C'est une télévision indépendante qui vient, comme nombre de ses journalistes, de recevoir du ministère de l'information russe la qualification infamante et très contraignante bureaucratiquement d'agents de l'étranger. Et c'est la journaliste vedette Anna Nemser qui vous guide dans les locaux. À l'antenne, un des responsables de la chaîne rap, c'est lui qu'on entend. Mon meilleur ami est un agent étranger, chante-t-il, avant qu'il ne soit interrompu par le carton devenu obligatoire et qui rappelle son état justement d'agent de l'étranger. Le monde que vous allez voir n'existe plus. Nous prévient d'emblée le film. Personne ne savait ce qui allait arriver. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Moscou filmer cette jeune génération de journalistes en octobre 2021, Julia Loktev?
In the summer of 21, Russia
started. Alors en fait, à l'été 2021, en fait, la Russie a commencé par déclarer un certain nombre de médias et d'individus comme agents étrangers. Et j'ai trouvé que quelque chose d'intéressant était en train de se passer. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose de très intéressant avec cette société qui déclarait que des gens qui étaient tout à fait des citoyens ordinaires comme des agents étrangers. Et je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose. Et tout le monde avait le sentiment que quelque chose se passait, mais personne ne savait vraiment ce que c'était. Tous les journalistes essayaient de comprendre. Est-ce qu'ils allaient devoir partir le lendemain? Jusqu'à quand pourraient-ils continuer à se battre et à travailler dans ce pays? Parce qu'en tant que journaliste, c'est bien sûr beaucoup mieux de travailler dans le pays. Mais ils ont tous pensé, en fait, que quelque part, en fait, le monstre allait les manger, mais n'ont pas imaginé une seconde, c'était inimaginable que le monstre allait envahir ce pays voisin.
Il se trouve que ce sont principalement des jeunes femmes que vous filmez. Tous vos journalistes sont des femmes. Est-ce que c'est par goût personnel et par intérêt personnel ou il se trouve qu'elles sont effectivement majoritaires dans ce travail-là?
It's true that there are a lot of women.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes en Russie qui sont journalistes. Hein. C'était pas mon propos, en fait, de faire un film juste sur des femmes journalistes. Ça s'est juste trouvé comme ça, en fait, que les femmes les plus intéressantes, enfin, que les journalistes les plus intéressants à filmer étaient des femmes. Hein. Et quelquefois, effectivement, des femmes très très jeunes qui essayaient de comprendre qui était Poutine. Et je crois que c'est aussi, en fait, hein, voilà. En fait, personne ne poserait cette question hein, si les personnes que j'avais filmées étaient des hommes.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous filmez justement des jeunes femmes qui vont dire que ce n'est pas un désavantage d'être une jeune femme pour faire son travail journalistique, parce que tout le monde vous voit comme une frêle jeune fille, quelqu'un de totalement insignifiant, et vous pouvez plus facilement, par exemple, aller faire un reportage dans le Donbass. Comme personne ne vous prend au sérieux, vous obtenez des informations que peut-être des hommes n'auraient pas obtenues.
Yeah, and that's something that definitely one of the
oui,
characters talks
c'est
about,
vrai, effectivement, kind of que c'est really, ce qu'un des personnages raconte. Hein, mais vraiment, c'est simplement, en fait, des incroyablement énergiques jeunes femmes. Hein.
Alors, ce qu'on voit, effectivement, vous disiez, personne ne s'attendait à ce que l'invasion en Ukraine ait lieu. Pourtant, il y a des signes qui arrivent. Et ce que vous filmez aussi, c'est cette sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on voit des preuves, mais on ne peut pas réussir à y croire jusqu'au moment où ça arrive.
Je crois que personne ne croyait que cette invasion allait se produire avant qu'elle ne se produise. Hein. C'était le 23 février 2023, pardon. Et jusque-là, c'était tout à fait inimaginable. Hein. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre « Où est-ce qu'on peut attendre l'impossible hein. ?» Parce que, effectivement, il y avait eu plus de 7 ans qui s'étaient écoulés depuis la tentative d'invasion du Donbass. Le monde, effectivement, s'était habitué à cette guerre au Donbass, mais pas à la guerre qu'on voit maintenant.
Ce que vous filmez aussi, c'est la rage de votre protagoniste principale, en tout cas celle qui vous fait rencontrer toutes ces personnes, Anna Nemser, Anya, comme on l'appelle dans le film. Vous la filmez souvent dans sa voiture et vous enregistrez voilà, ce qui se passe sur son visage au fur et à mesure qu'elle apprend ces nouvelles de pire en pire et le durcissement du régime.
Yeah, and I mean, I think in the morning of the full-scale invasion. She says,
oui,
I don't have a country.
Je pense que lorsque l'invasion de l'Ukraine a été déclenchée, elle s'est dit, je n'ai plus de pays. Hein. Et cette réalisation, en fait, que ce n'est plus l'endroit qu'on connaissait, même si tout le monde disait, on aurait dû savoir, on aurait dû savoir. Mais je crois qu'en fait, le sujet du film, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est vivre sous un régime autoritaire, s'y opposer, le combattre. Tous ces gens vivaient en Russie en étant des opposants, essayaient de combattre le régime de l'intérieur, mais j'ai saisi ce moment où elles ont toutes réalisé qu'il n'était plus possible de continuer à vivre là et de lutter. Et dans ce cas-là, ça a été une réalisation très soudaine. Tout le monde a dû fuir pour continuer à se battre, mais de l'extérieur de la Russie.
Alors, ce que le film ne filme pas, mais qu'on sent sans arrêt, c'est aussi vos propres réactions, vos propres surprises. Par exemple, Anna Nemzer vous raconte à un moment que les témoins de Jéhovah sont réprimés en Russie, parce que comme ils annoncent la fin du monde, mais ils annoncent aussi la fin de la Fédération de Russie. Donc, ce sont eux aussi des ennemis intérieurs. Et Anna Nemzer va vous dire, tu en fais une tête, dommage que tu ne te filmes pas. Alors, comment est-ce que vous avez pensé votre place, votre propre place dans le film Julia Loctef?
I have a very interesting kind of unusual.
Alors, je dirais que j'ai une relation particulière avec cette présence-absence de moi dans mes documentaires. Les gens me parlent, mais par contre, je ne voulais pas être au centre du film, puisque ça ne me semblait pas que j'étais intéressante. Mais en revanche, j'ai un point de vue intéressant. J'ai quitté l'Union soviétique quand j'avais 9 ans. Je parle russe, bien sûr, et les gens se sentent tout à fait à l'aise avec moi. Donc, quelque part, j'ai une intimité avec tous les gens que j'ai filmés. Et en même temps, j'ai grandi aux États-Unis, donc je vois la Russie de l'extérieur. Donc, c'est quelque part la perspective du visiteur invisible qui est allé retrouver cette amie intelligente, Anna Nemzer, à Moscou, et qui va être présentée à plein de collègues de cette journaliste, et elle va apprendre donc tout ce qui se passe, un peu comme quelqu'un qui arriverait de manière normale. Donc voilà, du coup, c'est pas un documentaire ordinaire que je fais, où il y aurait quelque part des explications de la situation. Elle est découverte petit à petit à travers les rencontres et conversations. Du coup, ces gens qui étaient les amis indésirables, les miens, deviennent les vôtres.
Ils deviennent les nôtres, d'autant qu'on a des conversations très quotidiennes aussi. On les voit faire la cuisine régulièrement et puis on les voit parler entre elles et essayer de trouver dans la fiction peut-être des moyens de comprendre le réel.
Facebook и Instagram в России не планируют отключать, это Мета сейчас заявила. Но они, может, не планируют, Путин сам отключит нас. Но сейчас мне одна пропаганда, блин, идет, это ужас какой-то.
Одна пропаганда?
В ТикТок, я открываю ТикТок, и у меня бесконечно, что типа ура! У меня нет. У меня есть ТикТок в сравнении Гарри Поттера с Россией. Его сейчас запретят в России, я боюсь.
Гарри Поттер — это Навальный.
А, да.
Который сидит. У нас есть Гарри Поттер, просто он сидит. Извините, ребят, придется подождать.
Все время в ТикТоке. Я в детстве смотрю Гарри Поттера и не понимаю, почему куча людей не может свергнуть одного лысого 20 лет правящего мужика. Я сейчас... А, понятно. Кстати, Навальный постоянно цитирует Гарри Поттера на судах. К последнему оружию, к волшебной палочке.
Я убираю волшебную палочку.
Она бессильна.
Она бессильна.
Настя привезла из Лондона одну себе и одну мне месяц назад. Да.
И эта палочка Северуса Снейпа, то, что подвергло такой опасности власть Волан-де-Морта. Вот такой смысл мы в нее вкладываем.
То, что мы дети, мне два раза говорили за последнее время. Блядь, я не открывала телефон 5 минут. Сообщают, что по аэропорту Запорожья нанесен ракетный удар.
Même si vous ne comprenez pas le russe, quelques mots vous auront été familiers. On parle de Facebook, d'Instagram, de TikTok. Et qu'est-ce qu'il y a sur TikTok, raconte Ksusha. Ksenia Mironova, de son vrai nom, qui est journaliste à Dojd, elle raconte que sur son fil TikTok, tout le monde parle d'Harry Potter. pour essayer, comme Alexeï Navalny l'avait fait à son procès, de donner une image de ce qui se passe en Russie. La Russie, c'est le Mordor pour eux. Et effectivement, vous filmez une jeune génération qui a les références de sa génération, sont toutes des millennials. D'ailleurs, elles se consolent en se disant qu'elles ont la vingtaine et que Poutine, lui, ne rajeunit pas. Donc, un jour, il ne sera plus là. Vous vouliez filmer aussi cette jeunesse, autant que des journalistes, Julia Loktev.
I think if I understood correctly, I have to make a correction. I think they're all Gen Z.
C'est plus des millennials, en fait. Elles sont des Gen Z, donc voilà, plus jeunes encore.
I mean, I always say that, like, you know, et these are, yeah, they're very young, a lot
elles sont
of these characters.
Très, très jeunes, en fait. Hein, really, ces jeunes Harry femmes, Potter et beaucoup, Harry Potter est vraiment, en fait, une référence pour elles. Elles regardent Netflix. Vous pourriez les retrouver marcher à Belleville ou à Brooklyn. Aujourd'hui, ce sont des figures quelque part très familières pour nous tous, hein, si ce n'est que voilà, elles vivent dans un endroit qui était très peu familier pour moi à l'époque, mais je pense qu'il devient davantage maintenant.
Ce qui est très frappant, c'est qu'elle rit beaucoup. La situation est terrible et elle rit toujours beaucoup. Il y a une vieille dame aussi, une vieille dissidente de toujours, qui dit tout ce qui nous reste, c'est l'optimisme et le rire.
Tout à fait. Je crois que c'est intéressant, en fait. Hier soir, à l'ouverture du cinéma du réel, Catherine Bizern, sa directrice, a dit quelque chose sur la joie et le rire comme une forme de résistance politique. Et c'est quelque chose que les gens disent dans mon film. Et c'est quelque chose, vraiment, ces paroles de Catherine Bizern qui ont vraiment résonné pour moi. Hein. Et je dirais que voilà, c'est quelque chose sur un endroit qui quelque part a des côtés très drôles. Il y a de l'humour chez elles. Elles sont tellement vivantes, en fait. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que je dois mentionner. J'ai fait aussi des fictions et des documentaires, et je ne fais pas une telle différence entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, en fait, les gens qui traversent des choses très difficiles. Et donc, quelque part, je crois que les moments tout à fait inattendus, en fait, dans la vie, offrent les choses les plus intéressantes, en fait.
Mais précisément, je ne sais pas combien d'heures de rush vous avez rapporté de Russie lors de vos différents voyages, mais vous avez dû monter tout ça. Et ce film qui est chapitré en cinq chapitres, c'est la première partie. On verra après ce qui se passe une fois qu'elles ont quitté la Russie. On a l'impression que vous l'avez montré presque comme une série télévisée avec des personnages qui, selon les épisodes, vont prendre plus de place. Comment est-ce que vous avez fait ce montage et comment est-ce que vous avez réussi à considérer les personnes qui étaient devenues peut-être sans doute vos amis comme des personnages, Julia Loktev?
Oui, je suis très heureuse que vous ayez mentionné ça, parce qu'effectivement, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé Madman comme référence, mais c'est vraiment ça, en fait, des gens qui se mettent à l'avant, qui repartent plus en toile de fond, voilà. C'est une histoire de gens, hein, finalement, donc je l'ai structurée de cette manière-là, en fait, une aventure humaine. Et en ce qui concerne donc la première partie du film, hein, qui est Last Air in Moscow, le dernier à Moscou, ce qui est montré au cinéma du réel, c'est très étrange parce que on sait ce qui va se passer, on sait que la Russie effectivement va envahir l'Ukraine, mais on regarde ces personnages qui l'ignorent, hein. Et ce que je fais actuellement, c'est je travaille sur le montage de la seconde partie qui donc va suivre les mêmes personnages donc en exil ces toutes dernières années. Elles ont vécu dans 14 pays. Et cet état de l'exilé est quelque chose de beaucoup plus indéfini par nature, hein, temporellement également. Donc, je crois que je vais structurer ce film-là différemment.
Et ce film, vous l'avez tourné avec votre téléphone portable. Est-ce que c'était un choix esthétique? Est-ce que c'était pour des raisons de discrétion aussi? On imagine que vous pouviez avoir un peu d'appréhension d'être surveillé en train de les filmer, ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous étiez là avec votre téléphone et que c'était la meilleure façon, en étant seul face à elle, d'être dans cette proximité, Julia Loktev?
It happened by chance.
Ça s'est fait par hasard, je crois. Voilà, dès que j'ai pu avoir un visa après le Covid, j'ai sauté dans un avion, j'ai commencé à filmer, en fait, dès mon arrivée, je devais travailler avec un chef-op. Et puis finalement, Anna, le premier personnage qu'on rencontre, m'a dit, mais tu sais, on ne le connaît pas, en fait, peut-être que tu pourrais filmer toi-même. Et puis finalement, j'ai emprunté la caméra de cet homme, mais je ne savais pas tellement comment elle fonctionnait. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et du coup, ça a fait naître une intimité absolument incroyable. Et puis maintenant, avec les téléphones, on a une qualité incroyable. Ça permet aussi d'avoir un son qui est très propre en mettant des micros sur les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être très proche des personnages. Donc, de laisser cette idée d'intimité, ça n'avait pas grand-chose à voir en fait avec la surveillance, la question du secret, parce qu'on est tellement habitué à tout ça. Je crois que les gens se sont juste sentis beaucoup plus à l'aise parce qu'on a tellement l'habitude d'être filmé tout le temps. Donc il y avait comme ça quelque chose qui renforçait la proximité avec les personnages, qui va aussi déterminer ce que les spectateurs pensent. Parce que des fois, les gens filment des documentaires de très loin, en fait. Ils regardent des gens à une certaine distance, et distance émotionnelle également. Donc du coup, voilà, c'était quelque chose qui insistait sur l'intime.
Это точно пройдет. Это точно пройдет. Пакеты мокрые на голове. С электрометками на руке. Моя Россия, сиди терпи. Но верь же мне. Это пройдет. Какой же черный нам вымыл век. А мне мерещится вдалеке. Живой надежды забытый свет. Так верь же мне. Это точно пройдет. Словно свастика русского мира, как пожары в сибирских лесах. Срок я честных ребят из Пензы и Питера, набитый детьми автозак. И из ящика брющая нечисть, 228 и Шимон в 5 утра. Как омоновец храбро калечащий женщин, как декабрь, январь и февраль. Это точно пройдет. Это точно пройдет.
Merci Julia Loctef et merci à Pascal Fougère d'avoir été votre voix française. On a très hâte de découvrir dans la deuxième partie de My Undesirable Friends comment vos héroïnes continuent leur combat en exil. En attendant, la première partie est à voir au cinéma du réel. C'est tout à l'heure à 17h à l'Arlequin et mardi 25 à 14h30 au Reflet Médicis. Vous donnerez par ailleurs une masterclass lundi soir à 20h toujours à l'Arlequin. Et puis on espère prochainement une diffusion plus large de votre film en France, que ce soit sur grands ou petits écrans. Vous écoutez France Culture, plan large, et vous restez avec nous, Julia Loctef. On part à présent dans un autre pays et d'autres luttes. Ça commence le 12 octobre 2019 sur un air connu.
وبعد في غيره وبعد في غيره وبعد
Bonjour Hassan Salam.
Bonjour.
Pour les non-arabophones, je traduis quelques-uns des slogans qu'on a entendus chanter dans cette manifestation du 12 octobre 2019, si je ne me trompe pas, à Beyrouth.
Je ne sais plus quel jour exactement, mais ça a commencé en octobre 2019.
Ouais, je crois que c'est daté comme ça dans votre film. Alors on entend « Gouvernement, casse-toi, le peuple ne veut plus de toi. Hariri est tombé, au suivant maintenant. Allez Beyrouth, révolte-toi. Et Taoura, Taoura ». Taoura en arabe, Taoura, voilà, c'est révolution, c'est le nom qu'on a donné à cette série de manifestations.
Oui, moi je l'appelle soulèvement, mais bon, qu'importe.
Voilà, ah bah, soulèvement, révolution, en tout cas c'était une réponse populaire à l'effondrement économique, politique, même moral du pays. Qu'est-ce qui vous fait descendre dans la rue à ce moment-là pour filmer ce mouvement? D'abord, est-ce que c'était pour filmer ce mouvement ou d'abord vous étiez un manifestant et comme beaucoup des manifestants qu'on voit dans le film, vous avez sorti votre téléphone portable pour le filmer.
Oui, moi, à l'inverse de votre invité, je ne suis pas allé, j'y suis.
Voilà.
Et, mais cela dit, au moment où ça a commencé, moi, j'étais à Lisbonne, à Dock Lisboa, et je montrais des films. Donc, je suis revenu en catastrophe, parce que je voulais être là. Moi-même, je suis très politisé, très actif, on va dire, voilà, pour résumer les choses. Donc, en fait, je n'ai jamais filmé pour en faire un film. J'ai filmé beaucoup. Alors, on parlait de comptes, de réseaux. Mais moi, c'était Instagram. Donc, je filmais et je, comme on dit, postais, qui veut dire partager, en fait. Évidemment, je partageais pas tout, mais je filmais, je partageais. J'étais disons, physiquement là. J'étais là.
Mais ça se sent d'ailleurs dans votre façon de filmer. C'est-à-dire, vous ne filmez pas de l'extérieur pour documenter.
Oui, oui, oui.
Vous êtes au milieu de ce qui se passe.
Je savais pas que j'allais devenir le protagoniste, entre guillemets, principal et invisible, comme apparemment ici aussi. Sauf que moi, je ne filmais pas des gens spécifiquement. Je n'avais pas du tout l'intention de rendre compte ou de rapporter. Je voulais, voilà, à la différence des télés et tout ça, être dedans. Mais pas du tout, j'insiste, pour faire film. Ce n'est venu que bien plus tard.
Alors, c'est venu à quel moment, justement?
Alors, c'est venu en été 2023. J'étais au Sénégal, où je suis né, et donc je suis parti pour penser, préparer un nouvel essai, enfin, essai filmique. Et je regarde ce téléphone, je me dis, bon, allez, je vais le vider de sa mémoire. Déjà cette phrase, vider de sa mémoire, donc je commence à vider. Et je me rends compte de toutes ces vidéos, non pas que je les avais oubliées, mais vous savez, chez nous, les choses s'empilent, donc on n'est pas tout le temps à s'attarder sur ce qui fut. Et donc, je me rends compte qu'en fait, ces vidéos, je les avais filmées et je les avais partagées immédiatement. Je ne les avais pas vraiment vues. Donc là, j'avais le double recul et à la fois géographique, puisque j'étais à Dakar, et bah, temporel, parce que voilà, c'est 2023, ça a commencé en 2019. Et entre-temps, vous savez, il y a eu le Covid, il y a eu l'explosion du port, mes propres parents sont morts en un temps très court, en 2020. Donc tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, parce que franchement, c'était pas une réflexion vraiment. Je me suis dit, je vais me venger contre l'OTAN. C'est une réflexion complètement idiote, parce qu'évidemment, on se venge pas contre l'OTAN. L'OTAN, ça veut rien dire. Donc j'ai commencé à préparer dans ma tête et sur un disque dur, chronologiquement, toutes ces vidéos. Et je me dis, je vais bien voir ce que je vais en faire. Et je suis parti sur ce que j'appelle comme ça, d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans le film, comme un carnet de bord, donc visuel, parce que je filmais en fait régulièrement, y compris quand le Covid, ou là, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, masculin, féminin, qu'importe, quand il est venu estomper et même faire tomber tout, et moi je dirais l'ordre a repris, parce qu'ils en ont bien profité, c'était un double virus en fin de compte. Et puis bon, les choses beaucoup plus personnelles, l'explosion du port et tout ça. Et moi, j'ai continué à filmer, mais toujours à titre personnel et toujours en partie partageant sur Instagram, qui est devenu une espèce de joujou, je ne sais même plus comment l'appeler, parce que honnêtement, je peux me la raconter, me dire oui, c'est un carnet de bord, mais la vérité, j'ai été moi aussi pris par cette espèce de consumérisme du réseau. Voilà. Donc, et puis... Je suis parti dans un fleuve comme ça, et ce qui était très étrange pour moi, c'est que, puisque en fait, je montais, j'ai décidé très vite que j'allais avoir cette chronologie. Elle me permettait d'avancer et de découvrir, pas redécouvrir, parce que je ne cherchais pas du tout à rembobiner, je crois pas, on ne peut pas revivre les choses. En plus, je les ai vécues. Et donc, Et au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais dans un contre-temps. Et en arabe, le film s'appelle « Le jour et la nuit », EST. C'est, vous savez, c'est comme s'il n'y avait plus de frontières entre elles, entre ces deux. Et l'un a avalé l'autre, quoi, ou absorbé l'autre, la nuit, en l'occurrence. Donc, je suis entré dans cette temporalité et imaginez-vous que j'avais oublié que ma mère est morte à un moment donné. Donc, je me suis arrêté. Ben, non, je savais que ma mère est morte. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais
j'étais dans
moment,
ce tunnel.
Oui,
oui. Voilà, j'étais dans ce tunnel.
Ce tunnel qu'on voit dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un plan
tunnels,
très
oui.
récurrent de ce tunnel
que vous filmez
avec cette foule qui avance et puis que vous filmez aussi pendant le confinement, pendant le Covid, où tout d'un coup, tout est vide.
En plus, pour ceux qui connaissent un peu Liban, parce que moi, j'ai pas du tout voulu informer le spectateur. J'ai voulu le lâcher comme voilà, sans lui donner plus d'informations que ça. Et en plus, ce tunnel divise Beyrouth, divisé durant les guerres civiles entre ce qu'on appelle l'Est et l'Ouest. Donc, il y a toute cette topographie, il y a toute cette ivresse du début. Et je le dis moi avec amour, hein, aucun cynisme. Je vais pas dire ah là là, qu'est-ce qu'on était con. Non, c'est très beau d'être ivre. Et tant pis pour la gueule de bois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'on dit à Dakar, au Sénégal, on dit « quand tu vois des gens danser, entre dans la danse, après tu sauras éventuellement pourquoi ils dansent ». Donc je sais ce que j'ai fait, bon, c'est vrai que j'étais très politisé, faut pas se la raconter aussi, mais quoi qu'il en soit, j'ai été pris et je me suis arrêté avant ce qui se passe à Raza. Et quand était arrivé ce qui se passe à Raza, je parle d'octobre, novembre encore, le tout début 2023, je me suis arrêté et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire comme si, surtout que moi je suis très impliqué, émotionnellement, intellectuellement, politiquement et tout. Du coup, j'ai intégré. Il faut voir le film. Et ça s'arrête là parce que je vais pas faire tome 2, tome 3. Sinon, je pense que je deviens zinzin. Parce que, je répète, c'était pas délibéré. Après, évidemment, je l'assume.
Fin d'un concert et les rappels de la chanteuse et des musiciens tournent à l'appel chanté à la manifestation. Oui. Artistes et spectateurs sont tous ensemble, chantent sur l'air de « Fais la grève aujourd'hui et le changement viendra ». C'est un mouvement tel que vous le filmez qui semble avoir pris la société libanaise dans son ensemble. En tout cas, c'est cet être ensemble que vous filmez beaucoup, Hassan Salah.
Oui, pour moi c'est très important, c'est-à-dire l'individu et le commun, le collectif, ne sont pas antinomiques. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est malheureusement notre société, là où elle est, hein, que ce soit ici, en France, au Liban, partout, elle nous amène à croire que c'est ou l'individu ou le collectif, alors que c'est les deux. Et c'est pas une obligation, c'est même fondamental. Malheureusement, on est complètement à côté de la plaque. Donc cet ensemble a à un moment donné pris, et je tenais à lui rendre sa place. Même si, parce que ce qui est particulier, comme dans son film que je n'ai pas vu, mais j'ai entendu tout à l'heure, on sait ce qui s'est passé. On n'est pas dans un suspense. On sait à l'avance qu'on s'est cassé les dents, on sait à l'avance que le Covid est venu ratiboiser tout ça. On sait tout ça. Mais moi, j'ai voulu rendre ce moment très particulier. Alors, moi, comme politiquement, je suis un garçon très à gauche, donc j'étais plutôt avec les gens à gauche. J'étais plutôt avec les gens à gauche et les féministes.
C'est beaucoup des femmes qu'on entend et qu'on voit. C'est elles qui chantent les slogans, par exemple, aux parleurs.
C'était des slameuses, en fait. Je sais pas si ce mot existe, mais elles étaient là. Alors, beaucoup d'entre elles sont des copines, en l'occurrence. Mais donc, moi, j'étais plutôt avec, là, parce qu'il y avait d'autres endroits. Il y avait des gens peut-être plus nationalistes. Je suis pas un amoureux du nationalisme, et ainsi de suite. Mais donc, c'est pour ça que je dis, j'ai pas voulu rendre compte, j'ai pas voulu faire une analyse. C'est une prise, c'est pour ça que je l'ai appelé carnet de bord. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas d'informations spécifiques. Les seules véritables, entre guillemets, informations, elles arrivent quand c'est très personnel par rapport à la perte. Mais oui, il y avait cette espèce de... C'est pour ça que j'ai dit que le Covid a été un double virus pour le corps, mais aussi le corps social qui commençait à se proposer autre chose.
Un autre chose d'autant plus frappant que on parlait de la génération des millennials ou génération Z qu'on voit chez Julia Loctef, c'est la même génération qu'on voit chez vous, c'est-à-dire une génération pour qui la guerre civile est une question historique et qui va manifester contre le communautarisme en disant chiites sunnites tous ensemble, chrétiens musulmans tous ensemble, notre ennemi commun c'est le gouvernement, le capitalisme, le patriarcat. Il se passe quand même quelque chose politiquement de très intéressant.
Oui, oui, c'est pour cela que je reviens toujours à ce fichu Covid, il est vraiment venu casser tout ça, parce que ça commençait à prendre corps. Parce que soyons honnêtes, au départ, il n'y avait pas une volonté politique. Ça n'a pas été une volonté politique, comme je pense au Chili ou ailleurs, parce qu'au même moment, il y avait ça au Chili, ou même le Hirak en Algérie. Ça a été au départ une réaction par rapport à l'arnaque totale de cet État libanais, pas seulement ce gouvernement, tous les gouvernements d'avant, on verra. Donc le truc, c'est que, mais peu à peu, ça s'est politisé. Et très vite, ceux qui ont un projet, ou en tout cas une proposition de projet, ont pris la voie. Et d'autres sont venus parfois par mimétisme, parfois par sincérité, parce qu'il faut être franc, mais moi, j'ai pas voulu faire l'analyse de ça. Et j'ai pas voulu non plus même ironiser là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais qu'on est tombé. Et alors, on peut revenir éventuellement, j'en sais rien. Et donc, mais la chose est que oui, c'est pas ma génération parce que moi je suis beaucoup plus vieux qu'eux. D'ailleurs, j'étais souvent l'un des rares anciens parce que je suis né en 58 quand même. Et eux, c'est même pas inversé 85, c'est parfois carrément fin siècle précédent, début siècle celui-là. Donc oui, oui, mais bon, vous savez, la force des pouvoirs de savoir aussi, parce que je pense que l'une des nouvelles forces des pouvoirs, en dehors de zigouiller des gens, c'est compter sur l'épuisement. Vous l'avez bien vécu en France, ils ont compté sur l'épuisement avec les trucs des retraites et compagnie. On compte sur l'épuisement. Et si ça ne marche pas, on ajoute de la matraque et parfois plus. Bon, bref. C'est...
Alors, comment est-ce que ces images que vous filmez sans intention d'en faire un film résonnent malgré tout avec votre cinéma? Moi, j'étais très frappé de plans quasiment identiques qu'on retrouve dans vos fictions, et ce depuis Beyrouth Fantôme. Ce sont ces travelling en voiture à travers le pare-brise avant qui vont circuler comme ça dans la ville. On a les mêmes plans que partout dans ce que vous faites.
J'entendais tout à l'heure, je connais pas son travail, Julia
Loctef,
et elle parlait de la non-différence fiction-documentaire. Je connais pas son travail, mais je suppose que ce qu'elle veut dire, c'est que son regard, c'est son regard. Et elle a un regard. Alors évidemment, les plans peuvent bouger, évidemment, les protagonistes, entre guillemets, peuvent bouger et tout. Donc, et dans le regard, il y a des obsessions. Moi, j'ai des obsessions. Et Beyrouth est une ville où on circule soit à pied, soit en bagnole. Il n'y a pas de métro, heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on se noierait, il y a la mer juste en dessous. Et il n'y a pas vraiment de transport en commun. Si, il y a des trucs comme ça, mais... Donc, le véhicule est une chose... Alors après, ça devient une obsession, il faut être honnête. Hein. On a des obsessions. Et ce qui m'intéresse avec le véhicule, c'est que... Je sais, je veux dire une banalité, mais c'est cette espèce de mobilité immobile. C'est-à-dire, on est là, fixé dans un endroit qui bouge dans cette ville... Et les rues deviennent pour moi comme des artères, quoi. Enfin, artères, pas seulement artères urbaines, mais artères du corps, quoi. Moi personnellement, mais bon, parce que même après, même quand la ville se vide, parce qu'elle se vide, et où on l'a vidée, qu'importe. Et en plus, je filme beaucoup plutôt là où je vis, ou mes quartiers, entre guillemets. Même quand je vais à la montagne, c'est des montagnes que je connais où je vais, où j'essaye de fuir, pas très loin, c'est tout petit le pays, mais fuir un instant en tout cas. Donc oui, c'est... Et oui, je sais, je faisais pas film pour autant, mais c'est des... Voilà.
Il y a un autre plan récurrent qui revient. On imagine que c'est depuis chez vous. C'est ce qu'on voit de votre fenêtre. Il y a des immeubles et puis il y a la mer derrière. Et puis il y a des cargos qui passent. Mmh. Et régulièrement, entre deux manifestations, vous êtes à votre fenêtre et vous regardez passer des cargos.
Oui, avec les intempéries aussi, parce que j'ai gardé ça. Je voulais donner les saisons, les intempéries. C'est-à-dire aussi. J'ai pas de raison raisonnée, si je veux dire, mais c'est aussi ce que je filmais souvent. J'ai une fascination pour parce que c'est comme une fenêtre. En fait, il y a deux bâtiments, il y a ce bout de mer et il y a ces cargos qui passent. Et je sais pas. Pour moi, c'est ma Méditerranée, mais elle est aussi engoncée quelque part. Elle est pas.
C'est pas la Riviera, non.
Non, c'est pas la Riviera de l'autre. Non, c'est sûrement pas la Riviera de l'autre. Non. Et d'ailleurs, la Riviera, j'étais à Nice. Je pense qu'elle est pas mal. Donc, mais blague à part, c'est aussi la géographie, la topographie, cette ville, mais aussi la mer qui est là malgré tout, et cet horizon dont je ne sais même plus s'il est encore un horizon dans le sens évidemment métaphorique. Quoi. Bon, bref.
Alors, des horizons, justement, c'est les questions que se pose le cinéma du réel cette année. Quel horizon quand il n'y a pas de perspective? L'invitation qui vous a été faite, c'est de faire des ateliers, c'est-à-dire de discuter avec des cinéastes, des chercheurs invités. Qu'est-ce que vous attendez de ces ateliers, Hassan Salam?
Alors, honnêtement, je l'ai pas appelé atelier. C'est eux qui l'ont appelé atelier. Je n'étais pas du tout mon intention. D'ailleurs, je leur ai dit, mettez en italique au moins le mot atelier, mais il paraît que sur les sites, c'est compliqué de mettre en italique. Parce que ça fait forcément croire. Alors, il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de mes films qui. Alors, évidemment, il y aura des discussions après. Il y a beaucoup des films précédents. Ce que j'appelle, moi, essai. Celui-ci, je peux le qualifier de documentaire. De toute façon, j'ai aucun problème. Moi, un film est un film, quel que soit sa particularité. Et alors, étant donné ce qui se passe dans ma région, et je sais que chez vous, publiquement, il y a des mots que vous ne dites pas, donc étant donné ce qui se passe en Palestine, à Gaza, pour moi, je ne pouvais pas faire comme si de rien. Il n'en était pas question. Donc, j'ai décidé, et j'ai eu l'aval du festival, donc, de montrer. J'ai 5 séances, en fait, c'est ça. Donc, 2 de ces 5, je les consacre à autre chose que mes films. Je les consacre à ce qui se passe chez nous. Non pas pour crier tels les militants, parce que je vois pas, on est au cinéma. Donc, pour voir comment le cinéma est questionné, bouleversé, bousculé. Et donc, forcément, moi, comment je suis bouleversé. Et aussi, les gens que j'invite. Donc, voilà, c'est parce qu'en plus, là, pendant que je vous parle... Tout à l'heure, je venais en métro, je courais, et je vois qu'Israël bombarde de nouveau le Liban Sud. Donc, c'est pas du tout un truc qui s'est passé. Ben, c'est un peu comme en Ukraine, c'est pas passé. En Russie, ce n'est pas passé. C'est encore... malheureusement, c'est encore là. C'est encore... c'est horrible de dire le mot frais, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est encore là. Donc, et ce qui se passe en Palestine, même si c'est pas nous ce que vivons au Liban, c'est loin de l'horreur à Gaza et actuellement en Cisjordanie, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, moi, je pouvais pas faire comme si de rien... En temps entre guillemets normal, peut-être pas. Yes, I know you're unhappy. Yes, I know you've been crying. Can't you see by my eyes? I've been crying too. But you have to scream louder. Because no one is listening. You can scream, you can shout. Don't expect to be heard. You'll have to scream louder. You'll have to scream louder. No respect for these people in power. They make their decisions from their ivory tower. And I feel the hatred is growing inside.
there's nowhere to run to, 'cause there's nowhere to hide. You'll have to scream louder.
Merci Hassan Salab. Effectivement, il faut parfois continuer à crier et crier plus fort encore. Vos ateliers, c'est à partir de demain, 17h à l'Arlequin, avec la projection de 1958 et posthume. Et puis, c'est toute cette semaine au cinéma du réel. Contre-temps, votre documentaire sortira, lui, en salle dès mercredi prochain, 26 mars. Et puis, on rappelle que 6 de vos longs métrages et 3 de vos essais, comme vous les appelez, sont édités en coffret DVD avec un passionnant livret. C'est chez Shellac. Quant au cinéma du réel, dans 4 salles à Paris, c'est juste jusqu'au 29 mars. Vous écoutez France Culture dans Plan Large. On ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec quelques-uns des films sortis et ressortis cette semaine.
C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui parfois en manque un peu.
Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942, je ne pensais y passer que quelques semaines.
Amen.
Sabia que vocês tinham exclusividade?
O que, que foi isso?
Não se mete nisso não, vai. Você é B.O. meu.
Este tipo lo conoces? Quem é?
Le cinéma est là d'emblée, tel qu'on le connaîtra toujours.
How are you?
Fine, and you?
Okay. Have a good day?
Yes, and you?
Good.
Anything new?
No. With you?
Nothing.
Good. I'll see you later.
I'll have your badge and gun. Now.
It's yours.
I asked for your gun, too.
It doesn't belong to the department. It's mine.
I'm warning you officially. Don't try to use it.
Amor mio.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, une famille haute en couleur dans un appartement parisien dont une pièce secrète fait dialoguer mai 68 avec l'occupation allemande, avec Michel Blanc dans son dernier rôle au cinéma. C'est le très volontairement antinaturaliste La Cache dont Lionel Bayer nous avait parlé dans cette émission pendant la Berlinale où il était en compétition. Une autre famille qui vit dans les montagnes reculées du Trentin Haute Adige pendant que la Seconde Guerre mondiale fait rage dans les plaines, c'est Vermilio, le second long métrage de l'italienne Mauro Del Perro, imaginé par la réalisatrice de Maternal, à partir de ses archives familiales. Une famille de cœur et de cul, celle-là, dans les très sensuels bas-fonds de Sao Paulo, c'est le très beau et nocturne Baby, audacieuse histoire d'amour et roman d'apprentissage queer du brésilien Marcelo Caetano. Famille toujours et petite entreprise, celle de Paris clandestin, repris par les femmes et filles après la mort d'un bookmaker, c'est le réjouissant et très stimulant, quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunter. Troisième film d'Hernan Rosselli qui a imaginé cette fiction à partir de films de famille confiés par une voisine en faisant jouer par la dite famille la part de fiction qui les entoure. Plus qu'une curiosité, c'est vraiment un bijou d'inventivité cinématographique. De l'inventivité, il en a fallu aux opérateurs du cinématographe Lumière pour créer dès l'origine de ce nouvel art des plans aussi saisissants de beauté, de composition, de mouvement et de profondeur de champ. En témoignent les 120 bobines restaurées et pour la plupart inédites rassemblées par Thierry Frémaux dans Lumière, l'aventure continue. On regrette, comme dans sa première anthologie en 2016, la surabondance de commentaires solennels ou spirituels qui laissent peu de place à l'imagination du spectateur, mais ça reste tout à fait stupéfiant à voir sur grand écran. Côté réédition encore, on signale le rare Illusion perdue d'Ernst Lubitsch. On n'en dit pas plus, ce sera le sujet de la chronique de Charlotte Garçon la semaine prochaine. Et trois classiques du film noir façon Columbia Pictures, le Gilda de Charles Vidor, le Violent de Nicolas Ray et le Règlement de compte de Fritz Lang dont nous allons parler dans un instant pour trois autres de ses œuvres. Tous ces films, vous pourrez les voir à partir de demain jusqu'au 25 mars pour 5€ la séance, puisque c'est le printemps du cinéma qui débute. Courez donc dans les salles. Il y a aussi, en même temps que le cinéma du réel, quel beau pays que la France, une multitude de festivals. À Alès, Itinérance rend notamment hommage à Chris Christopherson jusqu'au 30 mars. À Nantes, c'est le cinéma espagnol jusqu'au 29 avec Juan Antonio Bayona en invité d'honneur. Et puis à Toulouse, c'est le cinéma latino en général, Ciné Latino jusqu'au 30 mars. Et c'est Karim Aynouz qui est à l'honneur à Toulouse. N'en jetez plus, il est temps de passer à la caisse.
You cannot get something for nothing. And only a chump would try it. Whatever you see that you really want, you may have. provided you buy it. You'd like to live a life of luxury, wearing ermine wraps, a bracelet perhaps, or this sparkling gem. Remember, they cannot belong to you until you pay for them. You cannot get something for nothing. You've got to lay it on the line. The cars we ride in, you have to pay for them. The wines we thrive on, you have to pay for them. The food we live on, you have to buy. You must supply the do-re-mi. You speak of things that money cannot buy. For instance, can you name a few? Just try. Beauty to attract the man you love, you have to buy. Gems of thought to cultivate the mind, you have to buy. Even vim and vigor and good health, you have to buy. Sunny skies and Mother Nature's wealth, you have to buy. Cheese and roses, snowshoes and statues, perfumes and pistols, piccolos and dynamos, garbage cans and feather fans, candy sticks and building bricks, silver jets and movie tests, aeroplanes and streamlined trains. Let's see the color of your dough. You cannot rearrange a plan made by man since the world began. You cannot get something for nothing. Only a chump thinks he
can. Du Sprechgesang à l'américaine qui chante avec ironie le mercantilisme qui fonde le pays. On se croirait presque dans l'opéra de Katsu et pour cause. La musique est signée Kurt Weill. C'est l'ouverture de Casier judiciaire de Fritz Lang en 1938. Un film méconnu, mal aimé par ses auteurs, par ses interprètes et par ses exégètes et qui pourtant clôt une trilogie entamée par Fury et poursuivie avec J'ai le droit de vivre, une trilogie criminelle de la seconde chance qui ouvre la période américaine du cinéaste tout autant qu'elle prolonge sa période allemande. Le film est édité en belle copie restaurée, en combo DVD Blu-ray, avec deux films plus connus et commentés de Lang, La femme au portrait et Les bourreaux meurent aussi, film dont on avait d'ailleurs parlé ici lors de sa ressortie sur grand écran. Alors, Entebbin, est-ce que c'est un Lang mineur que ce casier judiciaire, ou un film qui est avant tout malade de ses démêlés avec son producteur? Il en avait l'habitude, en l'occurrence, pour ce film-là, c'était Adolf Zukor, le grand patron de la Paramount, Bean.
Oui, bah, comme toujours chez Lang, c'est compliqué. C'est paradoxal. C'est un film qui, plus qu'un film malade, je pense que c'est le seul film de toute la carrière hollywoodienne de Fritz Lang qui est un vrai film expérimental. C'est-à-dire, c'est un film qui fait complètement fi de toutes les barrières de genre, par exemple, de genre cinématographique. C'est à la fois un film de gangster, une comédie musicale, une comédie romantique, un conte de fées, une parabole sociale. C'est un film qui, certes, a été fait dans une période où Lang est assez vulnérable vis-à-vis des studios parce qu'il n'a pas fait de gros succès commerciaux, mais pour lequel il a en quelque sorte carte blanche puisque on lui laisse produire le film quasiment comme si c'était un projet personnel. Voilà, c'est un projet qu'il a hérité, dont il a hérité du sujet, et c'est grâce à son actrice principale, Sylvia Sidney, qui jouait déjà dans Fury et dans J'ai le droit de vivre, que Lang est appelé sur le projet et il décide d'en faire un film, son film sans doute le plus brechtien, c'est-à-dire non seulement où l'effet de distanciation vis-à-vis de la pièce didactique qu'il nous montre est dans le récit, c'est-à-dire que c'est un film qui est constitué de scénettes un petit peu comme Grand Peur et Misère du Troisième Reich de Brecht, qui petit à petit vont s'assembler pour former une sorte de grand récit thématique. Et puis surtout, c'est un film où il, au départ, a envie d'utiliser la musique de Kurt Weill exactement comme Brecht dans ses pièces, c'est-à-dire dans un effet de distanciation par rapport à l'action dramatique du film. Évidemment, là, Lang il va se heurter au principe de réalité de la production hollywoodienne. Alors, il va mettre des mois et des mois à concevoir le projet avec Kurt Weill, quitte à se fâcher avec lui. Il va faire écrire et réécrire le scénario. Le tournage va mal se passer parce que Fritz Lang, c'est un être double. D'ailleurs, c'est ce que racontent ses films. C'est quelqu'un qui est progressiste, qui est antifasciste, qui a une fibre sociale, politique, mais qui est aussi autocrate, tyran sur les plateaux, qui veut que tout le monde se plie à, pas tellement sa règle à lui, mais à la règle du film. C'est-à-dire qu'il y a, pour lui, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de, de travail syndical qui tienne. On se lève, enfin, on commence la journée de tournage à 9h, on la termine à minuit si les plans ne sont pas finis, etc. Il va en résulter une œuvre qui désarçonne totalement la critique de l'époque, où, étonnamment, aujourd'hui, cette modernité, ce non-conformisme, c'est ça qui prime, avec, quand même, grâce à la présence justement de Sylvia Sidney, qui forme un couple avec ce gangster réformé qui est George Raft dans le film, un couple vraiment attachant sur la réinsertion des prisonniers. Enfin, c'est un film dont le propos social est sans cesse contredit par une sorte de volonté mélodramatique de savoir si ce couple va réussir. Le studio, d'ailleurs, ne va pas savoir comment vendre le film. Le slogan du film, ce sera « À chaque fois qu'elle dit « je t'aime », elle enfreint la loi ». Parce qu'en fait, cette ex-détenue cache à son fiancé, qui travaille dans le même grand magasin qu'elle, qu'elle-même est une ex-prisonnière.
Elle est libérée sur parole, elle n'a pas le droit de se marier pendant son temps.
Voilà, c'est « Do not marry », c'est dans l'affiche, le cahier des charges, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, Fritz Lang démarre le film par cette stupéfiante séquence dont on a entendu la bande-son, qui est une sorte de, comment dire, de mise en garde contre la société de consommation, en même temps que, sans doute, le court-métrage expérimental le plus radical de Lang, avec une sorte d'inventaire à la Prévert de tout ce qui constitue la société dans laquelle nous vivons, y compris d'ailleurs les tests cinématographiques. À un moment, il y a un gros plan d'une caméra 35 mm.
Tout se paye.
Voilà.
Vous n'avez rien pour rien.
Et alors, tout ça est à la vitrine de ce grand magasin où travaillent les personnages, pas seulement les personnages principaux, mais quasiment tous les personnages du film, parce que chez Fritz Lang, la vitrine a toujours été très importante. Souvenez-vous de la vitrine dans laquelle M, le maudit, regarde non seulement les couteaux, mais aussi le reflet de sa prochaine victime. Ce sera aussi le cas du début de La femme au portrait, le film, un des films réédités dans cette collection de films restaurés. Voilà, la vitrine d'un magasin, c'est quoi ? C'est un reflet de notre propre pulsion, c'est aussi l'écran de cinéma. Et pour Lang, c'est à la fois une manière d'exprimer les fantasmes du public et ses démons intérieurs.
Merci Ntebin. Casier judiciaire, La femme au portrait et Les bourreaux meurent aussi, dont on entend la musique. Trois films de Fritz Lang, c'est édité en combo DVD Blu-ray par Rimini. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Marie-Claire Oumabadi. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.